Donc, c'est pour cette première présentation. Je prends mon papier. Donc, j'avais invité Gérard Ferré. Donc, je mets un passé, parce qu'il n'est pas avec nous ce matin. Il va vous l'expliquer dans un instant pourquoi. Donc, Gérard Ferré est un de nos plus grands chimistes français actuellement. Et il est membre de l'Académie des sciences. Donc, il a été professeur à l'Université de Versailles à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il a reçu un grand nombre de prix et de distinctions ces dernières années, notamment un grand prix de chimie, qui est le prix ENI, de l'entreprise italienne ENI, concernant ces travaux qui permettent d'envisager des méthodes de séquestration massive du CO2 de l'air, et donc autour notamment d'un de ces matériaux qu'il a mis au point. Et puis également, il a reçu en 2010 la médaille d'or du CNRS. Donc en fait, je vais tout de suite mettre sa petite vidéo pour vous expliquer en fait pourquoi il n'est pas avec nous ce matin. Il était extrêmement embêté, il a dû annuler très récemment, et du coup, on a convenu qu'on allait se partager sa présentation, c'est-à-dire que je vais vous faire du Gérard Ferré. Je vais essayer en tout cas de vous faire du Gérard Ferré, ce qui n'est pas facile, on n'a pas du tout la même manière de parler. J'ai son PowerPoint, donc il va vous présenter l'introduction, il va vous présenter la dernière partie de son exposé et ses conclusions. Et donc, entre-temps, je vais essayer de vous faire l'introduction qu'il avait prévue et pour laquelle il a beaucoup travaillé sur les relations cristallographie et art, et un petit peu vous raconter ces aspects-là à sa place.
Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir et de vous parler un peu de cette cristallographie qui occupe l'année internationale en 2014. Mais avant tout, je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses parce que cette conférence va avoir un aspect un peu étrange. En effet, ce qui était prévu, c'est qu'à l'invitation de mon ami Philippe Walter, j'avais accepté avec enthousiasme d'être avec vous ce soir sur un sujet qui nous passionne tous les deux, les relations mystérieuses entre l'art et la science. Et bien sûr, je me faisais un plaisir de vous en parler. Hélas, la Corée du Sud m'a informé récemment qu'elle souhaitait m'attribuer un prix scientifique important au cours d'un symposium international au cours duquel je donnerai la conférence plénière. Certes, un grand honneur pour la science française, mais une frustration pour l'individu. Alors, bien sûr, on aurait pu tout enregistrer, mais un enregistrement vidéo d'une heure, c'est pénible. C'est pénible pour l'auditoire. Et Philippe a décidé, avec mon accord, de scinder cette conférence en trois parties. Un enregistrement de l'introduction de la conférence par mes soins, une intervention ensuite, une intervention physique de Philippe à partir de mes diapositives de la partie qu'apporte la science à l'art, et enfin, j'en prendrai la parole pour la dernière partie qui concerne les apports de l'art à la science. Alors, cristallographie. Revenons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que la cristallographie ? Alors, c'est une science transversale. C'est une science qui, dans ses étapes successives, depuis Platon jusqu'à maintenant, a permis d'accéder à l'ordre intime des atomes qui forment la matière, ordre qui explique aussi les propriétés physiques de celle-ci et dont la société entière est désormais bénéficiaire. Donc la question qui peut se poser aux profanes, c'est comment est-ce qu'en regardant un superbe cristal de pyrite, vous l'avez représenté ici, cubique, on arrive à la fin à déterminer l'ordre des atomes de fer et de soufre dans cette matière. En d'autres termes, comment est-ce qu'on est passé du macroscopique, le cristal, au nanomonde, l'arrangement des atomes ? Alors, cette cristallographie, je vous l'ai dit, c'est une science transversale. Fille d'autres sciences, la géométrie et la minéralogie. Bien sûr, aussi, cousine d'autres sciences, les sciences dures que sont la physique et les mathématiques. Mais, depuis peu, la mère d'autres sciences, sciences qui sont la chimie structurale et la biologie structurale. La cristallographie, une science, certes, mais bien au-delà de la discipline purement scientifique. Elle jette un pont fascinant entre les arts et les sciences. Et une question troublante. Qui inspire qui? Entre art et science, et nul mieux que Vermeer ne pouvait l'illustrer, quels apports réciproques et quelle résonance entre les deux? Alors, on veut souvent les opposer. L'art exprime, la science mesure. L'art, c'est l'émotion, la science, la raison. L'art est une représentation, la science, une observation doublée d'une explication. Cette opposition a fait beaucoup parler, et j'en ai extrait quelques phrases célèbres, par exemple celle de Brouwer, « L'art est fait pour troubler, la science rassure ». Picasso, « L'art est une science transcendée par le rêve ». Beethoven, la musique est la forme la plus achevée de la pensée humaine. Quant à Léonard, la sculpture n'est pas une science, mais un art très mécanique. Alors, si on veut s'intéresser à cette dualité, art et science ont une origine commune. L'observation par l'homme de la nature au fil de l'histoire et du temps. Les hommes la copient, l'interprètent, la transcendent et s'en servent plus tard comme support au rêve. Et beaucoup de disciplines scientifiques sont concernées. Toujours intéressant de regarder ce petit graphe quand on considère le poids de l'histoire sur leur inspiration. L'art, avec la courbe verte, c'est l'évolution dans le temps de l'art, particulier pour utilisant la géométrie. Vous voyez que dans les temps reculés jusqu'au milieu de la Renaissance, l'art a été dédié au divin. Et c'est à partir de la Renaissance que la description artistique du divin a commencé à décroître pour arriver à la dimension humaine et jusqu'à maintenant l'art abstrait. Alors que pendant ce temps-là, la science partait d'une connaissance zéro et est arrivé maintenant à définir des sciences du chaos. Donc une vision extrêmement temporelle des relations entre art et science. Alors, qu'apportent les sciences aux arts? Et là, je laisse la parole à mon ami Philippe.
Bien, donc c'est là que je dois faire cet exercice délicat. Hop, je relance la présentation. Et donc l'idée de Gérard est donc d'essayer de regarder un petit peu à travers différentes approches scientifiques à la fois les relations qui existent avec la cristallographie, donc en même temps de définir un petit peu ce qu'est la cristallographie si certains d'entre vous ne sont pas très familiers, et puis de regarder cette relation permanente avec les manifestations artistiques. Donc qu'apporte la science à l'art et depuis quand? Donc c'est vrai qu'on peut commencer à regarder cela avec la géométrie, avec l'étude des formes, l'observation des formes, leur description, inspirée de la nature, et donc Durer le considérer. Et là vous voyez, en disant la géométrie est le véritable pilier de toute peinture, et je vous remontrerai une gravure de Durer un peu plus tard, et puis vous voyez également quelques cristaux qui peuvent inspirer toute une série de manifestations artistiques, et donc des cristaux de pyrite, de nouveau, cette fois-ci maclés, donc de très beaux cristaux qui sont associés avec une légère différence d'orientation cristalline les uns aux autres. Et si on regarde dans les différents domaines scientifiques ce qu'ils apportent à l'art, on peut commencer donc par cette géométrie, et donc bien entendu par l'apport des mathématiques, et cette géométrie qui va concerner à la fois la ligne, le plan et le volume. Donc la ligne, une seule dimension, le plan, deux dimensions, et le volume en trois dimensions. Et ces formes vont exister, bien entendu, et la notion de forme préexiste, et ce n'est pas l'être humain qui a commencé à le définir, avec donc la nature qui va fabriquer toute une série de minéraux qui sont des symboles de régularité et d'harmonie. Et là, vous avez des cristaux d'améthyste avec une forme bien particulière de ces cristaux que l'on connaît bien et qui peut immédiatement rappeler d'autres types de formes, comme celle de cet ensemble de pyramides d'Égypte à Gizeh et qui ressemble d'une certaine manière à certains cristaux. Et de là, l'idée que cette notion de forme va être extrêmement importante, notamment dans l'Égypte ancienne, avec la naissance d'une architecture en trois dimensions, on le verra aussi un petit peu plus tard, qui va avoir besoin de formes particulières, de géométries particulières, de rapports de dimensions particulières, et qui va de là inspirer le monde religieux et également toute une série de développements philosophiques. Mais si on regarde d'un point de vue plus d'histoire des sciences, la géométrie va réellement arriver comme une science, comme une discipline, avec une véritable réflexion théorique en Grèce, avec différents auteurs que l'on connaît tous très très bien, comme Thalès, Pythagore, Platon, qui fera un grand nombre de discours dans le domaine, et également Euclide, donc auteur d'ouvrages, de théorèmes, de théories et de discours particulièrement importants dans cette période grecque allant du 6e siècle, disons, au 4e siècle, 3e siècle avant notre ère. Et donc les premiers mathématiciens grecs étaient des philosophes épris d'harmonie, et la géométrie, pour eux, était la manifestation de cette harmonie. Et donc tout l'ensemble se mélangeait, et donc Pythagore écrivait « Une harmonie cachée régit tout ce qui est ». Et de là, très vite, ils ont cherché à comprendre comment fonctionnait la géométrie dans le plan, donc la géométrie sur une feuille de papier, et comment on pouvait essayer de définir des formes régulières, harmonique, et notamment qui allait permettre de paver une surface plane. Et là, vous avez différentes formes qui correspondent à des polygones réguliers, de triangles, carrés, etc., pentagones, hexagones, et qui vont être particulièrement harmonieux parce qu'on va pouvoir les déposer sur le sol, les uns à côté des autres, et par juxtaposition et par translation de cette même forme les unes avec les autres, ils vont générer une surface complètement remplie et générer notamment des formes artistiques qui sont l'art de la mosaïque. Art de la mosaïque que l'on connaît aussi bien en Occident qu'en Orient, sous un grand nombre de formes, et donc tout autant pour décorer des sols que décorer des murs, par exemple. Et donc là, on est en présence de formes très simples, de formes qui vont avoir ces propriétés de pavage de la surface complète. Et ensuite, finalement, la nature, le nombre de ces formes permettant de combler et de représenter entièrement le plan, de couvrir entièrement le plan, n'est pas infini. Il a fallu attendre après d'autres types de théories pour réussir à inventer d'autres types de formes et qui, là aussi, vont avoir des retombées extraordinaires dans le domaine de la cristallographie et dans le domaine de la physique. Et c'est notamment, ce sont ces pavages décrits par un mathématicien anglais, Penrose, qui va décrire des formes bien particulières qui vont permettre, avec deux types de triangles, de paver une surface avec une géométrie donc plus complexe que celle que je viens de vous montrer il y a quelques instants. Donc ces pavages vont être faits avec des triangles qui seront décrits triangles d'or, et on reviendra sur le nombre d'or un petit peu plus tard, et qui sont des triangles définis d'une manière mathématique très précise et qui vont avoir ces propriétés en étant associés de créer ces motifs particuliers de pavage. Et donc un triangle d'or, c'est un triangle isocèle qui possède la propriété suivante: c'est pouvoir être découpé en deux triangles isocèles inégaux qui possèdent la même propriété que le triangle d'avant. Et donc, à partir de cette notion-là, il a été possible de montrer qu'il y avait deux triangles que vous voyez ici, avec des angles différents, qui permettaient de réussir à créer ce pavage. Et ce pavage a été utilisé comme un modèle très intéressant de la structure des quasi-cristaux, donc d'une structure périodique très particulière qui a été décrite à la fin des années 70, années 80, 1980, et qui fait l'objet encore toujours d'un très grand nombre de recherches et qui a fait l'objet du prix Nobel il y a 2 ans, je crois. Mais ensuite, il y a d'autres formes qui sont plus compliquées et qui ne vont pas permettre ce pavage complet d'une surface. Il va s'agir du pentagone. Si vous mettez un pentagone à côté d'un autre pentagone, puis un troisième, comme sur ce petit schéma que vous avez ici, vous voyez que vous avez des trous qui se mettent et donc vous n'arrivez pas à un pavage. Et très vite, des réflexions ont été faites. Pourquoi ce pentagone ne permet pas de le faire? Donc on le voit expérimentalement, c'est complètement trivial. Mais en même temps, cette forme va pouvoir générer une autre forme en trois dimensions qui, elle, va permettre, par juxtaposition en trois dimensions, de compléter, de combler, d'occuper complètement l'espace. Et donc cette forme de pentagone juxtaposé les uns avec les autres en trois dimensions, c'est le dodécaèdre, et donc qui va être extrêmement intéressant, et qui va initier tout un développement de concepts de géométrie dans l'espace, toujours associé pour les Grecs à des notions de philosophie et d'harmonie, et où la mythologie et les éléments de la nature prennent une énorme place. Et donc on aura toujours ces relations entre les mathématiques et puis la nature et cette notion d'harmonie, et qui va finalement présider à tous ces concepts, donc notamment Platon, ensuite dans un de ses ouvrages, qui est un dialogue entre Sophocle et Théétète. Donc Théétète va faire toute une série de commentaires sur la science, sur l'harmonie, sur la géométrie. Là, juste une petite citation, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et de là, les platoniciens vont définir toute une série de formes régulières que vous avez ici. Donc l'octaèdre, qui est une forme relativement simple, ou le tétraèdre, qui sont des motifs extrêmement importants dans le domaine de la cristallographie, comme le cube, et puis des formes plus compliquées, comme je viens de vous parler, le dodécaèdre ou l'isocaèdre, donc avec des juxtapositions d'un motif régulier. Donc toutes les faces sont identiques, et les arêtes sont identiques, les angles sont égaux, et on génère ainsi une forme en trois dimensions. Et donc Platon et d'autres vont associer ces formes aux différents éléments et à la description de la nature de l'univers dans un passage, alors qu'il peut nous rappeler certains aspects de la communication d'hier sur Aristote, dans un passage mélangeant ces notions mathématiques et géométriques avec des notions d'organisation de l'univers et d'harmonie de l'univers. Et donc, dès lors, bien entendu, toutes ces formes vont prendre une place importante dans l'art. Et notamment ici, vous avez deux dessins, deux gravures. Et celle-ci est très connue, la Mélancolie de Dürer, donc en 1502, qui est une magnifique gravure, et où vous voyez toute une série d'éléments symboliques. Donc, c'est une œuvre qui a été énormément décrite, et notamment ce grand cube ici, qui a été tronqué de manière très particulière pour en faire une forme géométrique là aussi très particulière, qui est probablement d'ailleurs un cube de Galen, et qui porte énormément de symbolique dans cette gravure. Donc là, on était dans des formes décrites relativement simples par des formes géométriques qui vont permettre de reproduire, de combler l'espace en trois dimensions. Et puis ensuite, on a une géométrie des volumes qui va se développer simultanément et qui va concerner d'autres types de formes, donc des prismes de cette nature, mais aussi des cylindres, des pyramides, des cônes, et qui vont devenir autant d'éléments qui seront transmis de la géométrie et des mathématiques dans le domaine de l'art ou dans le domaine de l'architecture plutôt, ou inversement du domaine de l'architecture dans le domaine des mathématiques et de la géométrie. Et bien entendu, il va s'agir par exemple des temples grecs et d'un grand nombre d'autres représentations. Je vous ai mis tout à l'heure les pyramides, Gérard vous a mis tout à l'heure les pyramides d'Égypte. Ensuite, on peut regarder un autre aspect, cette fois-ci qui n'est plus géométrique, mais qui va toucher davantage à la perception. Et c'est la capacité de considérer finalement par cette géométrie qu'on a une manifestation particulière de la distance par rapport à notre perception avec nos yeux de la présence d'une forme géométrique. Et donc cette manifestation va résider dans des notions de perspective qui vont être extrêmement importantes dans toute l'histoire de l'art également, et qui vont amener à des théories là aussi très importantes auprès des artistes, auprès des architectes notamment. Donc dans ce domaine de la perspective, l'antiquité égyptienne l'ignore quasiment totalement. Vous avez des juxtapositions de différents plans qui seront mis, et vous avez également des différences de dimensions, par exemple ici des personnages qui ne sont pas forcément à mettre en relation avec des profondeurs de présence différentes des différents éléments, des différents personnages sur cette figure, mais plutôt avec le statut de chaque individu. Et les enfants, notamment, sont toujours représentés tout petits, même quand ils sont adultes, à côté de leurs parents. Donc, ils sont également représentés, comme vous le savez, en Égypte, de profil, sans profondeur. Et donc, la taille dépend uniquement de l'importance du sujet représenté. Et ensuite, la perspective va arriver progressivement avec une longue histoire à la fois dans le domaine de l'art occidental et de l'art oriental. Donc le concept est né en Orient dès le Moyen-Âge et il se relie à des études sur le regard subjectif de la vision. Donc c'est ce qui a été appelé perspectiva et non sur l'image, puisque dans ce monde arabe, l'image est beaucoup moins considérée, voire est tabou dans l'image du Dieu et de la représentation humaine. Et donc c'est à la Renaissance tout particulièrement que la notion de perspective va rentrer dans l'art de manière très précise, et que la perspective va faire partie de la théorie de l'image perçue et transcrite. Donc on a différents personnages très importants comme Giotto, qui va être un précurseur de ce type de notion. Tout cela existe également dans l'antiquité gréco-romaine, hein, ça Gérard ne l'a pas mis, mais existe également de manière moins, moins théorisé que ce qui va apparaître dans le courant du XIVe et surtout XVe siècle en Italie, avec différents auteurs comme Blaise de Parme, qui va commencer à décrire et à utiliser la perspective des sculpteurs ou surtout l'architecte Brunelleschi, qui vont théoriser, populariser les choses. Alberti également écrira un ouvrage et Piero della Francesca également fera un traité sur la perspective. Et à ce moment-là, on va complètement la considérer cette perspective, donc fondée par des philosophes et des mathématiciens grecs, et considérant que l'image visuelle est constituée de lignes droites partant de l'œil en formant des cônes, et ces lignes doivent converger pour exprimer le relief. Et donc arriver à faire des schémas de construction qu'on a tous appris à une époque, hein, en suivant quelques cours de dessin, et qu'on arrive parfaitement à suivre et à reconstituer dans des œuvres. Et donc là, ici, Gérard vous a proposé de regarder l'école d'Athènes, faite par Raphaël, où bien entendu, on retrouve également dans ces personnages qui sont peints sur cette fresque du Vatican, nos mathématiciens épris de géométrie et nos philosophes qui réfléchissaient à l'harmonie du monde grâce à ces formes. Donc bien entendu, dès que ces concepts vont être décrits, bien exprimés, ils seront utilisés dans le domaine artistique de manière systématique et de manière en général très juste. Et là, vous avez différentes œuvres de Fra Angelico ou Velázquez ou Piero della Francesca qui vont bien entendu utiliser ces concepts de perspective. Mais d'autres auteurs vont jouer sur ces concepts pour les inverser complètement, comme Escher, là vous avez une représentation, ou ici, où ils vont jouer, Escher va jouer comme d'autres artistes, sur la perspective qui peut devenir trompeuse, qui peut tromper nos sens et qui peut nous emmener dans des formes géométriques qu'on peut avoir l'impression d'être capable de percevoir et de comprendre, et dès qu'on les regarde en détail, se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas du tout par rapport à notre perception, parce que la représentation nous trompe par rapport à ce type de figure architecturale. Là, on est dans la géométrie des formes pour essayer de combler l'espace en trois dimensions. C'est la base de la cristallographie. La cristallographie, c'est l'étude de l'arrangement des atomes dans la matière en trois dimensions et la manière dont cet arrangement va se répéter dans toutes les directions. Donc, c'est une façon de commencer à le décrire. Mais très vite, on se rend compte que ça ne suffit pas et qu'il va falloir décrire d'autres types de paramètres qui sont extrêmement importants dans ces définitions du cristal et de ce qu'est un cristal. Ce sont des notions de symétrie, c'est-à-dire la manière dont finalement on va pouvoir dégager des symétries, je vais y revenir dans un instant, qui vont permettre de reproduire ces formes à l'infini en trois dimensions pour combler un espace. Un cristal est un espace comblé d'atomes, parfaitement répartis dans les trois dimensions, de manière très régulière et répondant à toute une série de symétries. Donc la symétrie, c'est d'abord une notion intuitive, donc fruit de l'observation de la nature, et ça, bien entendu, depuis les débuts de l'humanité, il suffit de regarder la réflexion de montagne dans un lac très calme pour voir immédiatement apparaître une notion de symétrie. Donc l'eau fournit le premier exemple de symétrie horizontale, c'est-à-dire que si vous mettez une ligne ici, vous pouvez voir que la partie haute de l'image va pouvoir apparaître de manière totalement identique de l'autre côté, juste par une symétrie par rapport à cet axe. Donc c'est vraiment une forme bien particulière et donc qui a été une expression qui a donné une impression d'harmonie et qui a été tant recherchée par les philosophes grecs et donc qui a aussi fortement inspiré beaucoup d'artistes classiques qui vont utiliser ce type de symétrie. Et la science, finalement, n'étudiera ces notions de symétrie et la suite de ce que je vais vous dire qu'à partir réellement du XVIIIe siècle. Et donc la symétrie dans l'art, c'est également donc la symétrie verticale et l'image de l'être humain, son corps, son visage, arrive à décrire en général, on est tous à peu près symétriques, donc par rapport à une ligne verticale que vous pouvez mettre au milieu de ce visage, au milieu de l'homme de Vitruve. Donc là, ce sont des symétries extrêmement simples, hein, mais on peut regarder après d'autres types de symétries qui sont des symétries axiales, qui là aussi auront une importance très grande pour la description des cristaux et qui ont une importance aussi très grande dans le domaine de l'art. Et c'est une conséquence directe de la description des polyèdres réguliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça permet de dégager une notion de rotation. Alors par exemple, si vous prenez un triangle ici, un triangle où on va marquer un angle de ce triangle, si vous faites un tiers de tour, à ce moment-là, l'angle de ce triangle va arriver à ce point-là, puis un tiers de tour, et puis un tiers de tour, un tiers de tour, et puis vous voyez qu'on va tourner, au bout de trois tiers, on a fait un tour complet, le point est au même endroit, mais à chaque fois, le triangle qui s'est formé grâce à cette rotation est identique au précédent, donc vous ne pouvez pas le distinguer. Donc on dit qu'on a à ce moment-là une symétrie d'ordre 3, c'est-à-dire qu'en tournant autour d'un tiers de tour selon l'axe de ce triangle, on arrive à reproduire la forme à l'identique, et c'est ainsi qu'on arrive à décrire toute une série de paramètres de symétrie axiale qui peuvent exister. Donc symétrie d'ordre 3 pour ce triangle équilatéral, symétrie d'ordre 4 pour un carré, symétrie d'ordre 5 pour un pentagone, symétrie d'ordre 6 pour un hexagone, et on peut continuer comme ça, symétrie d'ordre 7, d'ordre 8, d'ordre 9, ainsi de suite, autant qu'on en veut. En théorie, on peut faire toutes les formes que l'on veut avec juste un tour, enfin un énième de tour qui permet de reproduire ces différentes formes en fonction du nombre de côtés de cette forme. Et donc il a fallu attendre, comme je vous l'ai un petit peu dit, surtout le 19e siècle, pour que des scientifiques montrent qu'à l'échelle de l'ordre atomique, donc à l'échelle des atomes, à l'échelle du cristal, il n'y a que quelques possibilités, que quatre possibilités de symétrie par rotation axiale qui existent et qui permettent d'organiser l'espace en trois dimensions. Donc dans un cristal où on veut cette organisation de l'espace à trois dimensions, on a des possibilités de symétrie axiale qui sont que d'ordre 2, donc un demi-tour, d'ordre 3, 4 et 6, donc un tiers de tour, un quart de tour, un sixième de tour, c'est les seules possibilités qui existent. Et donc ça veut dire que la symétrie va régler l'arrangement périodique de la matière solide ordonnée. Alors juste, dans certains cas, on a une matière solide qui n'est pas ordonnée, hein, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler les verres, ou la matière vitreuse. Mais après, dans l'art, les symétries ont aussi joué le même type de rôle et vont jouer là aussi toute une série de... Enfin, vont rentrer dans la réalisation de toute une série de formes, et notamment de formes qui étaient liées au divin ou au rituel funéraire, comme ces pyramides d'Égypte. Ces pyramides d'Égypte ont une base carrée, et donc on peut considérer qu'il existe une symétrie verticale et une symétrie axiale qui est d'ordre 4. Donc on peut décrire finalement par ces opérateurs ce type de forme. Dans le cas du Parthénon, on a une symétrie verticale et une symétrie axiale également d'ordre 2. Donc on peut aussi réussir à décrire ça. Et puis regarder encore d'autres formes comme une cathédrale, ici Notre-Dame de Paris, où vous voyez bien la symétrie verticale qui peut exister. Et puis également d'autres types de formes comme les rosaces, et qui vont nous amener à pouvoir définir des symétries axiales qui sont beaucoup plus multiples, et où là, on peut regarder, là aussi, toute une série de concepts philosophiques et qui vont faire que l'architecture et l'art relié au divin vont prendre ces formes géométriques très particulières. Donc Notre-Dame de Paris, je n'en ai pas rediscuté avec Gérard Ferré pourquoi il considère que la grande rosace a 12 pétales et sa symétrie axiale est d'ordre 4. C'est totalement vrai, mais on peut imaginer d'autres types de symétrie. Et donc je vous dis juste d'ordre 4. D'ordre 4, c'est-à-dire que vous pouvez réussir, en mettant cette rosace en 4 morceaux, en tournant d'un quart de tour, à la régénérer entière. Et c'est pour ça qu'on va décrire cette symétrie d'ordre 4. Mais en même temps, on peut remarquer qu'il existe des symétries horizontales et des symétries verticales qui permettent aussi de décrire cette rosace, si cette fois-ci on la découpe plus qu'en 2 morceaux. Et donc en fait tous ces jeux de symétrie sont complexes, tous ces opérateurs vont se superposer les uns avec les autres, et on va pour comme cela réussir à décrire toute une série de possibilités. Et les mathématiciens ont pu démontrer qu'en fait ce nombre de possibilités est complètement dénombrable, complètement limité, pour décrire toutes les possibilités qui permettent de combler un espace en 3 dimensions de manière complètement remplie. Donc dans le domaine de l'art, on le voit également dans ces symétries, par exemple dans le cadre d'objets de culte, comme vous avez ici, ou bien également dans le cadre de construction de mosaïques qui décorent des édifices religieux. Et la science intervient ici par les formes mathématiques, par les formes géométriques, mais également par toute une série d'autres moyens, et notamment les moyens de la métallurgie, des métaux précieux, des minéraux et des céramiques, qui vont servir de matériaux même à la constitution de ce type de forme géométrique répétée avec ces symétries importantes dans le domaine artistique. Donc dès lors, également, avec ce même type de concept, si on regarde un peu l'évolution de l'histoire de l'art, et notamment dans le domaine de la sculpture, on se rend compte que la symétrie verticale de l'homme debout ou d'un visage a été un paramètre extrêmement important dans les civilisations anciennes pour représenter l'homme. Et donc l'homme est d'abord symétrique, comme vous le voyez ici, l'être humain est d'abord symétrique, comme vous voyez ici, dans ces différentes représentations. Et donc la symétrie verticale de l'homme immobile va devenir en même temps, simultanément, un symbole de respect, d'héroïsme, de recueillement ou de sainteté dans un monde harmonieux, toujours cette même notion avec l'harmonie, voire avec le divin. Et la disparition de la symétrie dans le cadre des représentations d'hommes ou de femmes vivantes va apparaître progressivement dans l'histoire, notamment dans la période grecque, et la ligne verticale et ses symétries verticales va s'estomper au profit de courbes. Et là, vous avez deux représentations, justement, vous voyez bien ce jeu de courbes, une statue de Lycaon, et puis également l'hermaphrodite endormie du musée du Louvre, où là aussi, vous pouvez voir également des courbes, et puis également un jeu sur la représentation simultanée de l'homme et de la femme. Et en même temps, les mathématiciens vont continuer à chercher à décrire d'autres voies d'harmonie qui peuvent exister, cette fois-ci non plus dans ces symétries, mais dans les proportions. Donc là, on s'éloigne peut-être un tout petit peu de la cristallographie, mais depuis la Haute Antiquité, il est apparu une notion intuitive, on va dire, et visuelle, pour tenter d'exprimer ce qui est beau, et qu'est-ce qui est harmonieux, et qu'est-ce qui a des bonnes proportions. Et donc un des premiers, ou le premier à en parler, est Hérodote, et qui s'extasie sur l'harmonie des dimensions des pyramides, et il transmet ses idées aux philosophes grecs qui vont l'intégrer et puis essayer de décrire ce genre de notion, et notamment Euclide va chercher à définir ce qu'est la divine proportion. Et donc dans un de ses ouvrages, il va décrire les divines proportions entre deux segments, et donc il écrit « on dit d'une droite qu'elle est partagée entre extrême et moyenne raison, lorsque le support de la ligne entière à son segment le plus grand est égal au rapport de ce plus grand segment au plus petit. » Bon, phrase très compliquée qui consiste à juste dire qu'on a un segment, là, A, B, et on cherche le point C qui répond à une relation qui est ici. Et en fait, quand on va chercher ce point pour répondre à cette relation, on se rend compte que l'on va avoir la définition d'un rapport bien particulier qui généralement est noté phi et qui correspond au nombre d'or et qui va être un paramètre extrêmement important dans cette notion d'harmonie depuis l'Antiquité grecque et utilisé par énormément d'artistes dans des démarches philosophiques. Donc ce nombre d'or va être regardé, calculé, notamment par Euclide, qui va pouvoir regarder tout simplement comment on peut définir ce point C, et en partant de théorèmes comme celui de Pythagore, d'une équerre, d'un compas, on arrive très bien à le faire, et en fait le nombre d'or est la solution d'une équation mathématique très simple, x2 égale x plus 1, et qui se résout complètement à partir juste de ce petit schéma géométrique. Donc cette fascination pour le nombre d'or va faire qu'on va le rechercher un petit peu partout, et donc depuis la plus haute antiquité, il semble que les architectes ont construit certains temples comme symboles harmonieux liés au divin, avec des proportions qui sont à mettre en relation avec ce nombre d'or. Donc c'est le cas des pyramides d'Égypte, c'est le cas du Parthénon, qui vont respecter ce nombre d'or, c'est le cas de cathédrales gothiques, et beaucoup ont vu toute une série de rapports de dimensions à mettre en relation avec ce nombre d'or, et donc cette résonance mystérieuse entre le monde et la beauté, avec l'harmonie, devient vite une mystique et prend vite une connotation qui est complètement déconnectée après des notions géométriques et mathématiques que je viens très rapidement de vous expliquer pour arriver à quelque chose de mystique, d'harmonieux, de lié au divin. Comme on va le voir, donc par exemple sur les définitions du nombre d'or, comme vous le voyez là sur le schéma d'une pyramide d'Égypte, et puis également le rectangle d'or défini à partir des géométries, des différentes dimensions dans le cadre de la façade du temple du Parthénon. Et donc cette fascination existe dans l'Antiquité, va se poursuivre ensuite auprès de toute une série d'autres personne, donc notamment un mathématicien, Fibonacci, mathématicien qui va regarder comment on arrive finalement à aboutir à un système mathématique qui permet de décrire ce nombre d'or en décrivant donc une suite mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci et donc ses incidences qui font que cette suite va permettre de définir ce nombre d'or. Et puis d'autres personnes, notamment à la Renaissance, Luca Pacioli qui était un moine franciscain italien qui va le mettre à l'honneur de nouveau dans un manuel mathématique et qui va appeler ce nombre d'or la divine proportion et l'associer complètement à un idéal de beauté envoyé par le ciel. Et donc cette notation mystique va devenir omniprésente et ensuite sera encore regardée par d'autres, y compris des scientifiques. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Penrose, et Penrose, on va encore de nouveau avoir le nombre d'or qui va apparaître, et puis d'autres types de définitions, notamment de ces triangles d'or, comme je vous les ai montré tout à l'heure. Donc cette fascination va permettre donc d'arriver à la suite de Fibonacci qu'on arrive ensuite à dessiner d'une certaine manière comme ici, comme vous l'avez ici, et qu'on va retrouver dans des formes naturelles qui vont là aussi fasciner toutes les personnes. Et donc on va avoir ce nombre d'or qui va être observé dans différents types de systèmes naturels, et notamment dans le tournesol, comme vous avez ici, où on peut faire des constructions géométriques qui permettent de revenir sur ces suites de Fibonacci, de revoir finalement ce nombre d'or apparaître, et puis également dans des monuments ou également dans des théories mathématiques qui vont apparaître et qui vont permettre de générer des formes artistiques, on va dire cette fois-ci par ordinateur, comme les fractales, et donc les fractales définies par Benoît Mandelbrot, et qui vont permettre de générer des formes importantes de ce genre-là et qui seront de nouveau liées et qui créeront une relation intime entre ces formes géométriques, ces concepts mathématiques et également les manifestations artistiques. On était très dans le domaine des mathématiques et de la géométrie, mais la physique également va apporter des choses à l'art, et on va pouvoir notamment regarder comment l'optique des rayonnements et la mécanique vont être extrêmement importants dans ce domaine. Et donc l'optique des rayonnements, et notamment les rayons X, vont avoir un rôle absolument primordial dans la compréhension de cette organisation du nanomonde, de ces organisations des atomes dans les cristaux, et donc ces rayons X qui sont découverts en 1895 par un physicien allemand, Röntgen, vont permettre très vite de sonder la matière, de faire des radiographies, mais également de regarder par un phénomène qu'on appelle la diffraction de rayons X. Vous aurez plusieurs conférences qui auront trait à ça juste après moi, enfin juste après Gérard Ferré, et qui vont permettre, donc, à partir de 1912-1913, de décrire la structure des cristaux. Donc ces rayonnements sont de nature électromagnétique et vont être caractérisés par ce qu'on appelle une longueur d'onde. Et le rayonnement accessible aux artistes, accessible à nos yeux, c'est d'abord la lumière visible, d'abord la lumière blanche. Lumière blanche qu'on peut faire passer dans un prisme, l'expérience de Newton, pour séparer les différentes longueurs d'onde, donc qui vont correspondre à différents types de couleurs, et là aussi à toute une mystique qui sera associée entre le domaine artistique, le domaine philosophique, le domaine parascientifique, on va dire, et notamment Newton va arriver à la description des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, là aussi dans une volonté d'harmonie. Pourquoi avoir ce nombre 7? C'était là aussi dans un but d'harmonie. Et en même temps, des expériences vont être faites pour essayer de décrire la physique de ces phénomènes, la physique de l'interaction entre la lumière, entre un rayonnement électromagnétique et la matière, et notamment la possibilité de décrire que la lumière se propage en ligne droite, qui était là aussi une notion qui n'était pas si évidente, et c'est une expérience importante qui a été faite par un scientifique arabe, Al-Hazen, et qui a été un des premiers promoteurs finalement de l'expérience de la physique expérimentale pour essayer de décrire des domaines de l'optique et de l'optique physiologique et de la perception et comment finalement on arrive à regarder des choses ou regarder des œuvres d'art. Et ça peut continuer en décrivant d'autres choses, et notamment cette lumière visible qui va être utilisée pour regarder le monde, pour regarder l'univers avec différents outils, et qui va aussi simultanément inspirer les artistes, comme vous l'avez ici dans une œuvre où vous voyez ces différents soleils, ces différents ciels, et qui vont permettre de regarder un petit peu la nature différemment parce que les scientifiques la décrivent et donnent aux artistes des possibilités de la regarder avec un regard particulier. Et cette même lumière visible va générer immédiatement la notion d'ombre, la notion de forme, et la lumière va soit traverser un objet, soit être réfléchie par cet objet, et de là il va en résulter un phénomène percevable par nos yeux, mais également un phénomène d'ombre portée, et qui va être dépendante des formes de cet objet. Donc cette ombre portée, les artistes vont s'en emparer en considérant que c'est ce qui va donner l'impression de relief et de perspective au-delà de l'aspect géométrique dont je vous ai parlé tout à l'heure et de l'aspect de perspective mathématique qu'on peut avoir avec les lignes de fuite. Et donc mathématiquement, très, très rapidement dans l'Antiquité, mais surtout à la Renaissance, il va être calculé, étudié, des projections de la lumière sur des formes variées pour étudier ces ombres ou bien même au-delà, essayer de faire des dispositifs autour d'un miroir cylindrique, d'anamorphose, pour avoir une projection, cette fois-ci particulière, d'un objet. Donc Léonard de Vinci va se consacrer énormément à des recherches sur ces ombres, et puis va, dans une partie importante de son traité sur la peinture, décrire tous ces phénomènes d'ombre, ces phénomènes de quantité de lumière qui arrivent à la surface d'un objet, en fonction de la distance de la lumière qui l'éclaire, la manière dont les ombres vont être portées, vous voyez, dans des schémas géométriques tels qu'il arrive à le dessiner ici, et donc va de là réussir à concevoir des œuvres, des représentations, donc là un dessin, une étude préparatoire pour l'homme de Vitruve, ou bien d'autres œuvres comme des peintures, comme la Joconde, où ce jeu sur les ombres va être mathématiquement calculé de façon à donner une perception parfaite de la réalité et donc tromper notre regard. Mais tous les artistes en même temps n'auront pas forcément le même type de préoccupation par rapport à cette notion d'ombre ou ne la géreront pas de la même manière plutôt, et donc Vermeer par exemple dans cette œuvre ne gérera pas les ombres de manière directement liée à une perception simple de dire l'ombre, il y a moins de lumière, c'est plus sombre, mais il va aussi réussir à faire d'autres types de jeux qui sont également très importants, qui sont la génération de la suggestion de ces ombres, non plus simplement en noircissant, mais par un changement de couleur, comme vous voyez là, par exemple, pour l'ombre des maisons sur la route juste devant elle, et qui va correspondre cette fois-ci également à un changement de couleur. Donc on a différentes possibilités de ce côté-là. et puis d'autres ensuite vont continuer à réfléchir sur ces notions de lumière et cette fois-ci pas d'ombre mais de perspective et de géométrie. Et donc par exemple Canaletto va refaire des représentations de Venise avec une minutie complètement extraordinaire et qui sera associée à d'autres types de concepts d'études physiques et géométriques de la nature et à la conception de différents types de dispositifs comme la caméra obscura qui va permettre de regarder la cité de Venise à l'intérieur d'une boîte, donc d'une grande boîte munie d'une lentille, d'un miroir et d'un verre dépoli, et qui va permettre de projeter, comme on va le faire sur un appareil photographique bien plus tard, de projeter l'image que nos yeux perçoivent sur un plan, de façon à mettre, en rentrant sa tête et sa main à l'intérieur de la boîte, à mettre un calque sur lequel on va pouvoir dessiner directement, sans faire les calculs compliqués de projection de perspective, on va pouvoir dessiner directement la réalité. Et ça, c'est Canaletto notamment, mais d'autres artistes également, ont utilisé ce type de caméra obscura, Vermeer également, pour réussir à faire ces projections de la nature, à avoir une vision de l'espace beaucoup plus compliquée, à pouvoir la choisir, à juxtaposer des parties différentes même d'une ville, et arriver à un art qui est à la fois parfait, parfaitement idéalisé, parfaitement géométrique, enfin parfaitement répondant aux lois de la géométrie, et très illusionniste, mais qui devient presque surréel. Et par rapport à ça, des artistes comme Canaletto ont cherché d'ailleurs à tromper encore plus le regard, à rendre encore plus beau certaines représentations de la ville de Venise dans les peintures, en faisant des légères transformations des monuments, de leur forme, en corrigeant certaines choses, de manière à donner une autre harmonie, peut-être encore plus grande que celle qui est l'harmonie juste de la copie parfaite des géométries naturelles et des géométries créées par l'homme dans une ville. Donc là, on était dans le système de la lumière visible. Donc là, les artistes peuvent s'en emparer, mais après, il y a les lumières non visibles, donc en dehors du spectre de la lumière que notre œil peut percevoir. Donc les rayons X sont particulièrement importants. Là, vous avez un petit diagramme qui vous représente d'une certaine manière les différents types de rayonnements électromagnétiques qui existent. Le visible, c'est un tout petit domaine au milieu d'autres choses, donc notamment les rayons X, les ultraviolets, l'infrarouge, les ondes radio, les terahertz avant, les ondes radio, et ainsi de suite, et qui sont toute une série de domaines de rayonnement qui n'apportent pas forcément quelque chose à un artiste, puisque ce n'est pas des rayonnements qu'on arrive à percevoir, mais qui aujourd'hui nous aide énormément quand on cherche à comprendre comment les artistes ont travaillé en essayant de caractériser, grâce à tous ces rayonnements, la matière et les pratiques artistiques qu'ils pouvaient avoir. Le point suivant, c'est la mécanique. Donc Gérard Ferré voulait vraiment, enfin, souhaite décrire un petit peu tous les aspects qui existent autour de tous ces matériaux et la mécanique. Donc il a mis ce petit dessin de Piem sur les problèmes mécaniques de construction d'une forme. Donc je vous ai décrit les possibilités de construire des formes qui peuplent l'espace en trois dimensions de manière complète. Dans certains cas, on arrive à des formes qui sont particulièrement complexes et qui sont difficiles à envisager pour des raisons physiques, de gravité, pour des raisons mécaniques, de tenue des matériaux. Et il a fallu là aussi avoir toute une série de réflexions pour poser les problèmes de construction d'un édifice par juxtaposition d'une série de pierres qu'on peut considérer comme des cubes, comme un élément primordial de juxtaposition d'un espace en trois dimensions, et qu'il va falloir réussir à construire et à faire tenir avec des méthodes pour élever justement cette troisième dimension, qui sont compliquées parce que le but est d'allier à la fois le beau et le solide, de tenir compte de la gravité, donc du poids des différents éléments, de façon à réussir par superposition à créer ces édifices. Donc une des premières méthode qui a été faite, c'est la superposition qui se fait en quinconce, dans les trois dimensions, de blocs de formes régulières ou irrégulières, comme vous le voyez ici, donc taillés sur mesure les uns par rapport aux autres, et qui permet de répartir les forces de gravité sur le support inférieur, et de faire en sorte que des formes relativement simples, très denses, parfois complètement remplies, tiennent dans le temps. Et puis après, ce beau, ce solide, empêcher l'accès à l'intérieur de ces monuments ou empêcher d'avoir des grandes cavités, c'est alors que d'autres types de notions sont arrivées dans cette histoire de l'architecture pour avoir ces stabilités. Donc des blocs de formes variées vont être mis avec des dimensions particulières, mais vont être reliés entre eux avec différents types d'outils. Donc en quinconce, comme vous l'avez ici, parfois avec un ciment qui va donner la possibilité d'avoir des nouveaux agencements, des nouvelles formes, des colonnes, des linteaux, etc., et qui nous permet de construire notamment les temples de l'Antiquité grecque, et ensuite, avec l'époque des cathédrales, d'autres types de formes, avec des courbes cette fois-ci, des arcs qui vont permettre, et notamment l'arc-boutant, de faire tenir des édifices de très grande taille, finalement en étant extrêmement léger et en laissant un espace intérieur particulièrement vaste. Et ça, on va le retrouver également pour la construction de toits, de coupoles, de toute une série de merveilles d'architecture, et qui répondent là aussi à des juxtapositions de ces blocs avec toute une série de notions à la fois de géométrie, de mécanique et de physique pour réussir à fabriquer ces ensembles avec de la pierre. Donc là, vous avez différents exemples, notamment Sainte-Sophie à Istanbul, qui est un des exemples les plus célèbres de la construction de ces très grandes coupoles qui reposent sur juste 4 piliers et qui sont calculés pour être stables dans le temps. Et puis là, ensuite, le XXe siècle, et, bon, le XIXe siècle, le XXe surtout et le XXIe siècle vont changer encore plus toute cette notion, cette fois-ci en s'affranchissant de beaucoup de problèmes grâce à l'arrivée de toute une série de nouveaux matériaux développés par la chimie, par la science des matériaux. Les matériaux se diversifient, donc au-delà de la pierre, l'acier, le verre apparaissent en architecture. La rigidité arrive grâce au béton, grâce à des techniques de rivetage, de soudure qui prennent de plus en plus d'importance et qui nous permettent d'envisager, mais finalement que depuis très récemment, un gigantisme architectural qui va apparaître au XIXe siècle avec des tours comme la Tour Eiffel ou maintenant avec ces énormes tours qui existent en Asie ou à Dubaï par exemple et qui correspondent à des montages particuliers où la métallurgie et la chimie sont omniprésentes dans la construction de ces édifices. Donc ça nous ramène bien sûr aux origines aussi de tous ces matériaux et donc à cet apport de la chimie pour l'art. Donc depuis la préhistoire, la chimie est bien entendu présente d'une certaine manière dans la couleur pour les artistes préhistoriques de grottes comme celle de Gargas ou comme celle de Lascaux, mais qui seront des spécialistes de l'approvisionnement dans la nature, de substances naturelles et qui vont pouvoir utiliser directement. Et donc la chimie est d'abord perçue, associé au monde minéral et à des récoltes de substances naturelles, au monde végétal également, au monde animal, et on va pouvoir utiliser ces différentes substances, le plus souvent des oxydes de fer, des oxydes de manganèse également pour les couleurs noires. Et ensuite, cette chimie va servir l'art de manière très forte en lui permettant d'obtenir toute une série de matériaux beaucoup plus variés grâce à des réactions avec le feu notamment, donc c'est de la chimie, et puis grâce à la synthèse de nouveaux matériaux qui vont arriver et se démultiplier, comme vous avez ici sur ce graphique, sur différents types de couleurs. On a des minéraux naturels, puis après des minéraux de synthèse, des substances végétales naturelles ou des substances animales naturelles, et puis ensuite des colorants de synthèse. Et ces colorants organiques de synthèse vont apparaître à partir du milieu du 19e siècle, en fait de 1856, où un chimiste Perkin va synthétiser la première molécule colorante qui s'appelle la mauveïne, et de là va inventer un développement extraordinaire de la chimie de synthèse, de colorant, et qui va révolutionner à la fois l'art, la mode, et puis également révolutionner l'industrie chimique, qui va croître de manière incroyable grâce à ces développements de nouveaux colorants. Et donc cette chimie va aussi servir l'art et tout particulièrement la peinture, parce que la formulation d'une peinture va toujours être des mélanges entre des liants, donc de nature chimique, qui vont réagir dans le temps avec des pigments, donc des techniques qui vont être variées, comme l'aquarelle ou la gouache, où le liant ce sera de l'eau, les techniques à tempéra pour l'utilisation d'œufs, la peinture à l'huile, bien entendu, depuis les primitifs flamands, et puis à partir du XXe siècle, les solvants organiques synthétiques, comme la peinture acrylique, et qui vont permettre là aussi aux artistes de créer toute une série de nouveaux effets et toute une série de nouvelles harmonies dans l'art. La chimie des matériaux pour l'art, ce n'est pas que la peinture, bien entendu, mais il y a aussi trois autres grandes classes de matériaux, les métaux, les verres et les céramiques, qui sont extrêmement importants dans ce domaine. Donc les métaux qui ont été développés, métaux précieux ou métaux cuivreux ou métaux ferreux depuis la préhistoire et qui nous amène jusqu'à la métallurgie moderne, donc d'aspect du masque d'Agamemnon en or jusqu'à des sculptures comme celle de Calder que vous avez ici. Les métaux, le verre va aussi avoir une grande importance, fabriqué, inventé vers moins 1500, peut-être pas en Égypte, mais plutôt en Mésopotamie, ou disons des deux côtés, et qui va consister à fabriquer une matière, cette fois-ci, qui ne sera pas complètement organisée dans les trois dimensions, à l'ordre des dimensions du nanomètre. Ça ne sera plus des cristaux, mais ça sera une matière légèrement désorganisée, mais qui permettra d'arriver à d'autres types de formes, comme cette carafe ou cette petite fiole à huile ou à parfum, et puis ces formes ici, notamment de l'alique, et qui vont avoir des courbures très particulières et qui n'ont plus cette limitation due à l'organisation des atomes dans le cristal et qui permettent de faire des formes à l'infini beaucoup plus souples. Il en est de même des céramiques, qui est une autre classe de matériaux, et des céramiques en allant de différents types de technologies, de faïence jusqu'à la porcelaine qui a été inventée en utilisant une argile bien particulière, qui est du kaolin, et en le mélangeant à d'autres ingrédients, et en portant à haute température, de façon à faire ces porcelaines particulières, qui vont dès lors, faïence ou porcelaine, être décorées avec d'autres types de matériaux, cette fois-ci vitreux, et qui vont correspondre aux émaux qui vont permettre de décorer aussi bien des temples de Mésopotamie que des sculptures de la Renaissance, comme les ensembles artistiques des ateliers des Della Robbia, comme vous avez ici. Et donc on voit se rassembler à ce moment-là la céramique et les technologies du verre, donc les technologies des arts du feu, pour ce type de décoration polychrome. Il en est de même, bien sûr, pour d'autres types de formes, comme les vitraux, où là aussi on va avoir toute une série de technologies extrêmement sophistiquées qui permettront d'aboutir à ces couleurs parfois extraordinaires qui peuvent exister, et notamment des couleurs rouges qui sont conçues, qui sont développées avec des technologies très particulières, et notamment la synthèse de nanoparticules, de cuivre ou d'or ou d'argent à l'intérieur de la matière vitreuse, et qui vont, par des effets d'interaction avec la lumière très particuliers, générer ces couleurs rouges. Voilà un petit peu toute une série d'aspects de ce que la science apporte à l'art. Mais bon, quand j'avais contacté Gérard Ferré pour faire cette communication, c'était aussi parce qu'il réfléchit beaucoup, passionné d'art lui-même, à ce que l'art apporte à la science. Et il est arrivé à un point de sa carrière où il s'est aussi rendu compte que certaines des idées, certaines des molécules, certains des édifices cristallins qu'il fabrique dans son laboratoire sont inspirés de forme artistique. Donc là, je vais arrêter la présentation et lui repasser la parole pour qu'il termine donc cette petite cette conférence avec justement cette relation qui est très importante pour lui entre l'art et la science et la manière dont il peut concevoir certains nouveaux matériaux en relation avec des formes vues dans des œuvres d'art.
Alors, je reprends la parole pour essayer de voir ce qu'apportent les arts à la science. Une fois encore, des étranges résonances intemporelles entre les deux. Regardez, un tableau de Nicolas de Staël. La peinture, les figures de la peinture sont essentiellement des rectangles et représentent les footballeurs. Prenez Brancusi, les piédestals de ses statues. Ce sont des octaèdres tronqués, des cylindres. Ces figures géométriques dont Philippe vous a parlé, l'icosaèdre en particulier, l'icosaèdre peut être un merveilleux travail d'un des compagnons du Tour de France, partant de l'icosaèdre de Platon, et par contre peut dériver jusqu'à l'icosaèdre terrible de Escher. Mais cet icosaèdre, on le retrouve également dans la nature, dans Svirups, c'est la même forme icosaédrique. Toujours ces icosaèdres. Bien sûr, ils intéressent d'abord la géométrie, la philosophie, puis l'art, et plus récemment, la matière. Puisque l'icosaèdre, le dodécaèdre cette fois-ci, est la représentation du fullerène. Mais ça inspire également l'architecture de Kmenzer Fuller avec sa coupole de Montréal, et puis même, hélas, le sport. Alors les fullerènes dont je viens de parler, bien, le fullerène, c'est la représentation d'une série de formes de carbone qu'on peut accroître d'une manière assez importante en partant du dodécaèdre. Là, vous avez le premier fullerène qui est le carbone en C20, qui est exactement le dodécaèdre pentagonal. Quand il s'agit du C60, chaque boule de C60 s'arrange avec les autres de manière à former un assemblage cubique face centrée, et là vous avez une vision de quelques variétés de fullerène en fonction du nombre de carbones. Ça a bien sûr également inspiré les artistes, vous en avez deux preuves ici. et en particulier les C20 et C28, eh bien, ont un étroit rapport avec la chimie. En effet, la chimie décore ces polyèdres. Et là, vous avez l'exemple de deux solides hybrides que nous avons récemment synthétisés, qui sont formés de 28 centres, qui ne sont pas des atomes de carbone, mais des groupes d'atomes, qui se lient entre eux de la même manière que les atomes de carbone. Alors, chimie, les feux d'artifice. Les feux d'artifice qui sont une chimie extrêmement simple, mais bien sûr extrêmement spectaculaire. L'art de la pyrotechnie, c'est une chimie de base. Il suffit de mélanger un oxydant, un réducteur approprié pour que, par la chaleur induite, eh bien, se figurent ces phases lumineuses. Je voudrais terminer par de l'expérience vécue. Au début des années 80, je travaillais à l'époque sur des fluorures et je réussis à isoler une nouvelle forme de fluorure de fer. J'en fais la structure, vous l'avez représentée ici, soit sous forme d'atomes et de liaisons, soit sous forme d'octaèdres connectés les uns aux autres. Mais quelques mois après cette découverte, quelle n'est pas ma surprise, en visitant le jardin de Diane à Nîmes, de retrouver exactement la même forme, la même topologie. Superbe mosaïque, deuxième siècle après Jésus-Christ. Deux ans après, je suis au Caire et je tombe en admiration devant cette mosaïque. Et cette mosaïque, si vous la regardez bien, elle est composée de croix. Et on est toujours terrible quand on fait de la science, on est un peu omnubilé par ce qu'on fait. Et ces croix peuvent être assimilées à des octaèdres vus en projection. Et donc j'imagine, à partir de cette mosaïque, une figure géométrique correspondant à un éventuel composé chimique, dont je peux calculer la formule chimique. Je fais la manipulation, et qu'elle n'a pas été ma surprise de trouver que le composé que j'avais trouvé était exactement la réplique à l'échelle du nanomètre de cette mosaïque du Caire. Alors, on est en droit de se poser des questions. Résonnant, certes, mais troublante. D'où la question fondamentale. Est-ce que l'artiste n'aurait pas, au-delà du temps, envoyé un message subliminal aux scientifiques? Artiste, scientifique. Tous deux doutent, d'abord. Esquissent, ensuite. Trouvent et enfin font. Tous deux, à leur manière, sont des créateurs. C'est une chose qu'ils ont en commun. Aussi, artistes comme scientifiques peuvent, avec Baudelaire et paradoxalement Paracelse, la chimiste, vous dire « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Je vous remercie. » Même si je reste toujours troublé. Merci.